you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Briançon, Boris Pinot et Grégoire Di Fiore. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson. Réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Emmanuel Giuliani, Marie Audrou et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, La Veuve Joyeuse de Franz Léard, dirigée par Yacoub Yursa et mise en scène par Georges Davelli, c'est à l'Opéra de Paris. Maria Baikalas, l'exposition à voir à la scène musicale. Et Traviata, vous méritez un meilleur avenir. Conçu par Benjamin Lazare, Florent Hubert et Judith Chemla, à l'affiche des Bouffes du Nord. Présent également ce soir Boris Pinot qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires et toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des passes pour toute la durée du festival Biarritz Amérique Latine du 25 septembre au 1er octobre. Nous ouvrons cette dispute avec le retour d'une ancienne production de l'Opéra de Paris, créée en 1997 au Palais Garnier, La Veuve Joyeuse de Franz Léard, dirigée donc par Yacoub Roussa, mise en scène Georges Lavelli, reprise cette fois à l'Opéra Bastille. Nous parlerons sans doute de ce changement de salle, une opérette sans doute l'une des plus connues du répertoire, succès immédiat dès sa création en 1905 à Vienne. Contrairement à pas mal d'autres, c'est une œuvre très prisée par les plus grandes interprètes qui ont toutes voulu être cette veuve joyeuse. Joan Sutherland, Kirite Kanawa, Elisabeth Schwarzkopf, René Fleming l'ont chantée. Cette fois, c'est Véronique Gens. L'action débute à l'ambassade de Pontevedro, petit pays bien connu, qui est au bord de la faillite au moment où le rideau s'ouvre. Et pour sauver le pays, il faudra convaincre la belle veuve du banquier de la cour de se remarier avec un ressortissant du pays pour que ses biens y demeurent. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, parce qu'il s'agit d'intrigues amoureuses, de rancœurs, de jalousies, des péripéties évidemment nombreuses. On écoute un extrait de cette production issue de l'acte 2. Nous allons entendre Véronique Jean, c'est Valentina Nafornita. On va interrompre ce nouvel air pour commencer à parler de cette Ancienne production, 20 ans au compteur, reprise quelques fois, mais pas depuis 5 ou 6 ans, me semble-t-il. Emmanuel Dupuis, la veuve joyeuse.
Alors, reprise surtout pour la première fois à l'Opéra Bastille.
Oui, voilà, j'avais dit qu'on allait parler de ce changement de salle.
Et ce qui, évidemment, n'est pas sans poser quelques petits problèmes.
Petits ou grands.
Petits ou grands. Non. Bon, en termes musicaux, tout d'abord, bon, évidemment, c'est une partition extrêmement raffinée sur le plan de l'orchestration. Et ce raffinement, évidemment, à Bastille, on le perd un peu. Mais ça n'est pas dû du tout à la direction de Jacob Roussat, qui est vraiment un chef excellent et qui met du vif argent dans les passages brillants, comme on a pu l'entendre dans le passage, le court extrait. Et puis, au contraire, beaucoup de tendresse dans les passages élégiaques. Mais malgré tout, voilà, évidemment, à Bastille, forcément, on perd en détail de l'orchestration. Après, sur le plan du théâtre, on perd aussi, à mon sens, le sentiment d'immédiateté et de proximité qu'on avait davantage à Garnier, mais ça, c'est un truisme, hein. Je veux dire, c'est la même chose pour toutes les productions, d'une certaine manière. Mais je trouve que là, ce sentiment...
Enfin, celles qui sont créées pour Bastille prennent en compte les volumes, voilà. L'espace. On a vu plusieurs fois des productions passer de Garnier à Bastille, et c'est rarement heureux.
Voilà, c'est exactement, parce que quand une production est conçue pour Garnier, forcément...
Même d'ailleurs quand le metteur en scène est présent, puisqu'il s'avère que Jorge Lavelli, a malgré son âge maintenant, non pas canonique, mais quand même... Non.
Bon, ça va, il est en belle forme.
Il est très en forme, il est venu saluer.
Il est en forme.
Il a retravaillé la mise en scène pour l'adapter, mais malgré cela, c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses se dispersent, se perdent, et notamment les déplacements des personnages, on a l'impression qu'ils arrivent du bout du...
Ce qui est vrai.
...de l'aéroport, et que pratiquement, il faudrait les motoriser pour que ça aille plus vite. Enfin, je ne sais pas.
Mais ça tient aussi au fait que on a ce vaste décor qui est en fait un espèce de grand hall art déco qui est assez beau, mais quand même assez froid et assez vide. Et du coup, le fait que ce décor-là se retrouve dans le grand espace de Bastille, ça accroît le sentiment effectivement que les chanteurs sont parfois un petit peu perdus dans cet espace. Et puis il y a aussi le problème des dialogues parlés qui tiennent une grande place dans cette œuvre et qui, à Bastille, ont été sonorisés. Et moi, je trouve que la sonorisation, c'est peut-être quelque chose de personnel, mais je trouve que justement, ça accroît ce sentiment de... C'est un artifice, donc ça accroît ce sentiment de distance qu'on peut avoir avec les acteurs. Et surtout, peut-être aussi parce que la sonorisation n'était pas toujours de très bonne qualité.
Ça crée en fait une proximité factice, c'est-à-dire qu'on entend très bien ce que les personnages disent.
On ne sait pas et en même temps,
c'est, voilà, mais c'est artificiel.
Mais ça vient de nulle part, c'est le problème de la sonorisation.
Voilà, et il y a aussi le décalage après avec quand la musique reprend où on a l'impression de repasser sur un autre plan, sur un second plan en fait. Et ça, c'est quand même très dommageable. Je pense que... alors, on sait bien effectivement que la sonorisation, c'est très, très difficile. C'est un art vraiment très délicat et Dieu sait qu'on a pu se plaindre très souvent de sonorisation intempestive, notamment au Théâtre du Châtelet, par exemple. Ça, c'est un petit coup de griffe. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faudrait vraiment qu'un jour, un technicien extrêmement doué se penche sur ce problème pour qu'on ait quand même au moins que la musique et la parole soit sur le même plan. Puisque dans l'œuvre, elles le sont.
On ne manque pas de bons acousticiens dans ce pays. Oui, la cour d'honneur à Avignon est entièrement sonorisée sans que personne s'en aperçoive, quelle que soit la production. Alors le défi est immense.
Aujourd'hui, il y a des très très bons systèmes d'amplification et c'est vrai que l'Opéra Bastille serait bien inspiré de s'équiper.
En même temps, ils s'en servent rarement. Enfin, c'est compliqué. C'est un investissement lourd.
C'est vrai.
Bon. On n'a pas encore entendu Emmanuel Giuliani sur ces déballades, changements de salle, les difficultés.
Oui. C'est une production sur laquelle, à la fois, je me surprends à être un peu ronchonne et d'autre part, des choses qui m'ont énormément plu.
Allez, ronchonner d'abord.
Alors, je commence par ronchonner, sans en rajouter parce que c'est les mêmes motifs que mes camarades. À savoir, en effet, c'est dommage de l'avoir transféré à Bastille, même si un spectacle de rentrée sous les signes qui sont habituellement plutôt celui des spectacles de Noël et de fin d'année est une bonne idée, surtout quand le mois de septembre est si froid et pluvieux.
Ça s'est
compris, voilà. C'était pas pas prévu, ah, mais c'était bien vu. Avec la météo, voilà, oui. Ça permet de faire une rentrée un peu joyeuse, qui n'est pas déplaisante. Surtout, ce qui est aussi gênant, c'est que ce qui me plaisait dans cette production à Garnier, c'était que le plateau était plus sobre, tout en étant dans un esprit festif et luxueux par rapport à la salle.
Mais c'est ça,
et voilà. On a un plateau froid dans une salle qui l'est encore plus. Donc voilà, on a un peu le frigidaire qui regarde le congélateur, plutôt le congélateur qui regarde le frigidaire.
Quelle belle formule. Bravo.
Exact. Plus l'aéroport.
Vous l'avez préparé quand cette formule?
Comment?
Vous l'avez préparé quand cette
formule? Toute la nuit.
Ça me fascine.
Si je vous dis à l'instant, vous n'allez pas me croire.
Je suis subjugué. Mais je vous crois.
Oh, ça fait plaisir. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu gênant. Et puis autre problème, c'est que cet ouvrage étant écrit beaucoup pour le médium des voix. Plus la question de déséquilibre avec voix parlée et voix chantée. Quand les voix chantent beaucoup dans le médium avec un orchestre qui, je suis tout à fait de votre avis, est pourtant très délicat et très raffiné, elles disparaissent un peu. Notre oreille s'est habituée à les entendre parler et sans faire d'effort. Et là, quand la voix chantée intervient, parfois elle disparaît, alors qu'il y a des voix pleines de finesse et de charme. Mais dans leur médium et avec ce problème de salle, ça fait un peu beaucoup, on les pénalise un peu trop, je trouve.
Alors restons un instant sur ces voix, et pour commencer celle de Véronique Gens, donc dans ce rôle-titre.
C'est une voix magnifique, c'est un timbre très prenant, très à la fois sensuel, raffiné, et puis quelque chose qui est aussi... comment dire, c'est difficile de qualifier les timbres, mais c'est vrai qu'il y a parfois dans certaines sonorités de la voix de Véronique Gens quelque chose qui est complètement enveloppant. Et là précisément, bon, c'est pas non plus une très grande voix, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas quelqu'un qui, voilà, c'est pas une Valkyrie. Hein. Elle vient du baroque, mais elle a quand même beaucoup développé sa voix ces dernières années. Et là, effectivement, on sent qu'elle est un petit peu toujours aux limites. Et que voilà, il en faudrait, je sais pas, nous on était à la première, alors je ne sais pas comment c'était dans les représentations qui ont suivi, j'espère qu'elle n'a pas eu de problème, mais c'est vrai qu'on sentait quand même que c'était un exercice difficile pour elle. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un justement qui travaille dans la finesse, qui travaille dans l'expression, et on sentait parfois qu'il fallait vraiment, même si elle a quand même respecté sa façon de faire, hein, parce que elle préférait se mettre parfois un petit peu en retrait, et là le chef d'orchestre a quand même su baisser d'intensité par moment pour justement qu'on entende. Mais c'est vrai que c'est un problème. Bon, Hampson, c'est un Thomas Hampson qui faisait le rôle de Danilo. Lui, c'est une autre question. C'est quelqu'un dont la voix est un petit peu maintenant usée. Mmh. Mais voilà, on se retrouve avec des voix qui sont pas des voix immenses. Coup, et effectivement, le problème de Bastille, une fois de plus, se pose.
Emmanuel Dupuy?
Oui, mais c'est un problème qui se pose pour Véronique Gens, comme il se posait pour Félicity Lhôte, par exemple, quand elle chantait La Maréchale à Bastille. C'était la même chose. Elle avait du mal à passer la rampe, tout simplement. Mm. Ceci étant, Véronique Gens, là, elle fait quand même un numéro assez irrésistible.
Ah, oui.
Parce que c'est à la fois une grande styliste et une grande comédienne. Mm. Elle a à la fois un mélange de classe et d'accent canaille par moment qui colle parfaitement au personnage. Donc
c'est une belle incarnation du personnage, certainement.
Tout à fait. Et puis pour Hampson, effectivement, bon, la voix n'est plus ce qu'elle était. Mais bon, au fil de la soirée, quand même...
Il s'est chauffé,
La voix s'est libérée. Et puis après, on succombe quand même au don du comédien et à ce personnage à la fois désabusé et puis extrêmement attachant.
Et très enfantin aussi, par moment. C'est vrai qu'il y a un côté très comédie musicale dans le jeu de Hampson. On voit que c'est quelqu'un qui est rompu. Et c'est vrai qu'il peut tout faire. On a l'impression que tout d'un coup, il peut faire des claquettes. Et c'est vrai que ce personnage est complètement attachant parce que justement il est multiple. On sait quand même que les choses vont finir par s'arranger avec sa veuve et voilà, ça va finir joyeusement, mais on passe quand même par des états d'âme assez noirs, et ça il le fait sentir de manière assez subtile. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté revenu de tout, sauf des grisettes apparemment, parce que la grisette reste quand même son sport favori. Et d'ailleurs, j'anticipe peut-être sur la suite, mais on a quand même droit à la fin à un cancan qui est juste formidable, ça il faut bien le dire.
Oui, c'est vrai que Lavelli réserve un peu ses effets pour la fin, mais c'est vrai qu'à la fin, on en a plein de mirettes.
Bien sortir plutôt enchanté. Voilà. sur ce plateau vocal, Emmanuel Giuliani. Oui. Et puis on n'a pas parlé de ce rôle de Valenciennes, qui est notre femme importante, et on l'a entendu là.
Alors sur les deux protagonistes, c'est vrai que c'est une veuve et un Danilo qui ont vécu une histoire ensemble, qui en ont vécu d'autres, et qui se retrouvent avec ce mélange, comme vous l'avez dit, de classe, de clin d'œil, mais toujours très très élégant, et de ça, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires derrière eux, et que ce qui nous donne à voir est le résultat de toute une histoire qui s'est passée avant. Et ça, c'est très touchant, parce que on est dans un opéra une opérette dont on sent que s'ils voulaient faire le préquel, c'est des personnages dont on se dit, tiens, on aurait envie que quelqu'un compose le préquel, de savoir comment ils ont vécu avant. Et ça c'est très agréable. Les autres rôles sont, ma foi, fort bien tenus. Franck Le Guérinel est très très bien, très bon comédien comme à son habitude. Et puis oui, la jeune Valentina Nafornita, voilà, qu'on a beaucoup entendue à l'opéra de Vienne dans des rôles où je me rappelle un Don Pasquale où elle était absolument charmante. Elle avait fait moins convaincante parce que son français n'était pas parfait, une Sophie de Werther en version de concert au théâtre des Champs-Élysées avec c'était la prise de rôle, si je ne m'abuse, de Juan Diego Flores, et puis il y avait Joyce Di Donato. Elle a beaucoup de charme, elle est ravissante, elle a une voix qui n'a pas un caractère phénoménal, mais qui est charmant, effruité, c'est charmant, c'est très joli. Elle aussi, son médium est un petit peu laminé par la Bastille, mais non, ça fait vraiment un très joli plateau. Je ne suis pas de votre avis sur le cancan final. Je suis très admirative de la performance éblouissante des danseuses et des danseurs, et du danseur en particulier, qui est... En revanche, moi je trouve que ça va pas avec le reste, justement, de l'élégance, de l'understatement, du côté très raffiné du réel.
Moi, je trouve pas vulgaire du tout.
Non, il est pas vulgaire, franchement, mais il est... je trouve que ça devient trop agité. Mais c'est ce qu'il faut pour un cancan. C'est pas lui que... Mais on est dans un univers qui, pour moi, fait une rupture qui me dérange. Mais voilà.
Et malgré tout, à la fin, des anges noirs s'élèvent au-dessus des convives, et on comprend que finalement ce que Georges Lavilliers a mis en scène, c'est en fait une apocalypse tranquille, et que effectivement il y a pas d'esbrouve dans sa mise en scène. Ils sont pas obligés de rajouter des gags toutes les cinq minutes comme font certains metteurs en scène qui abordent le répertoire léger pour se rendre intéressant. Pas du tout. Il y a toujours
le drame chez Lavilliers.
Sous la légèreté, il y a toujours effectivement quelque chose d'un peu crépusculaire qui en plus est accentué par les lumières, et effectivement, oui, c'est on sent que tous ces convives dansent sur un volcan, et que ça annonce les catastrophes.
Je trouve que le cancan est d'autant plus frénétique et d'autant plus dans une forme de vitalité excessive que précisément ces anges noirs de la mort vont apparaître un moment, et avec la menace de la guerre et tout ce qui va se passer au début du XXe siècle, on sait. Et je trouve que justement cet effet-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant, parce que justement on ne termine pas sur un happy end. On ne termine pas sur le fait que ce Danilo et Anna vont finir par s'aimer. On termine sur quelque chose qui les dépasse totalement, qui est une projection dans le futur, et précisément je trouve que le cancan a son rôle, parce qu'il n'est pas décoratif, il n'est pas illustratif, il est vraiment dans une forme d'énergie pour juste dire, profitez-en braves gens, parce que regardez ce qui vous attend, regardez ce qui vous guette. Et ça, je trouve que précisément, moi personnellement, quand j'ai vu apparaître ces anges au-dessus de ce cancan, j'ai eu vraiment quelque chose dans l'échine qui m'a traversé. Je me suis dit, bon sang, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle idée de mise en scène, pour le coup.
Pas convaincu davantage, Emmanuel Giuliani.
Il faut que
j'y
retourne peut-être maintenant avec l'idée. Non, parce que ce que vous dites est convaincant. Moi, c'est vraiment la rupture de ton qui, au lieu de produire l'effet que vous décrivez et que je comprends tout à fait, m'a laissé à l'extérieur. Mais...
Puis on peut dire quand même un petit mot du ténor. Moi, j'ai trouvé formidable.
Mais oui, absolument.
J'ai eu un petit coup de cœur pour ce ténor.
Alors,
Stéphane Costello, qui fait le rôle donc du Camille de Roussillon. Ouais, ouais. Celui donc qui courtise la belle dame, la belle Valentina. Et franchement,
Vous avez hâte de le revoir.
Ah oui, j'ai hâte de le revoir et de l'entendre surtout parce que j'ai trouvé que ses aigus étaient magnifiques, une leçon de style, un français très bien prononcé parce qu'il est américain. Et ça, voilà, c'était aussi un plus pour le plateau. Le deuxième couple, si on peut dire, c'est ces jeunes qui débutaient à l'Opéra Bastille, et ben, ils avaient vraiment de la tenue.
Et il n'est pas ridicule du tout, alors qu'on pourrait facilement l'être dans ce rôle, oui. Et absolument pas, très poétique.
Stéphane Costello. À suivre, donc. La Veuve Joyeuse, Franz Léard, direction Yacoub Roussa, mise en scène Georges Lavelli, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 15 octobre. À suivre, dans la dispute, Maria Callas et une Traviata. Si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le deuxième sujet à notre sommaire ce soir, c'est une exposition. Maria by Callas, c'est à la Scène Musicale, à Boulogne-Billancourt. L'exposition a ouvert ses portes samedi dernier et se poursuivra jusqu'au 14 décembre. Voilà du temps. Première exposition pour ce nouveau lieu. Une exposition qui a ouvert ses portes 40 ans, jour pour jour, après la mort de la cantatrice. Tom Wolfe est le commissaire de cette exposition qui occupe 800 mètres carrés. De ce grand bâtiment, beaucoup, et on va en parler, d'archives inédites, scénographie signée Philippine Ordinaire, beaucoup d'éditions aussi pour cet anniversaire, éditions, rééditions, dont un coffret, 3 CD, voilà, faut penser au portefeuille de nos auditrices et auditeurs, 3 CD Maria Callas, La Passion de la scène, on va en écouter un extrait. Un air de Médée de Cherubini, enregistré à la Scala de Milan le 10 décembre 1953.
Thank you.
C'est à la Scala de Milan, le 10 décembre 1953, que Maria Callas chantait une fois encore. C'était pas la première, ça, le 10 décembre, je me souviens plus, je crois que c'était le 8. Médée Cherubini, évidemment un rôle important, mais il y en a tant dans sa carrière, et cette carrière, cette vie même, qui est retracée dans cette exposition Maria by Callas. Je trouvais que le titre, avant d'y aller, était un peu facilement accrocheur et un peu marketing, mais en même temps, il y a de ça dans cette exposition. Emmanuel Giuliani.
C'est absolument ça, oui, c'est vrai. Il faut peut-être expliquer le dispositif.
Vous allez commencer,
qui n'a rien de très sophistiqué, mais qui est très cohérent. On entre et aussitôt, on est un charmant ou une charmante appariteuse vous donne un casque audio avec un petit boîtier. Et en réalité, tout le parcours se fera guidé par la voix parlée et chantée de Callas. Et si on écoute absolument tous les extraits musicaux et les interviews et les, on peut y passer très très longtemps, c'est vraiment extrêmement copieux. J'avais du temps devant moi, donc j'ai pu le faire et je ne me suis pas ennuyée
6 jours à la scène musicale.
Et je ne me suis pas ennuyée une seconde.
La matière est riche.
La matière est riche et le parcours est très très classique, chronologique. Très bien fait. Il n'y avait pas encore énormément de visiteurs. Je souhaite le meilleur succès, évidemment, à cette exposition et qu'il y en ait plein. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas grand monde, on peut justement rester longtemps devant les documents les plus petits, comme les photos des albums de famille, ou les projections les plus grandes, comme ces films d'amateurs qui ont été captés, ou pendant une répétition de Butterfly, on la voit quelques instants, ou alors justement dans Médée, ou autres extraits. Et avec un croisement donc qui s'harmonise très bien d'extraits donc de très nombreux rôles qu'elle a pu interpréter, mais aussi de ses masterclass si célèbres quand elle a enseigné pendant 2 ans à la Juilliard School au début des années 70, et puis beaucoup d'interviews pour la télévision française, la télévision américaine, un petit extrait pour très très charmant parce que l'intervieweur est complètement tétanisé devant elle pour la télé portugaise quand elle arrive pour chanter la Traviata là au sortir de l'avion, il lui pose des questions tout tremblant. Enfin, voilà, beaucoup d'extraits. Je craignais que le côté justement un peu people, sa vie, la tragédie, Onassis, les régimes, etc., prennent le pas sur la part musicale. Certes, quelqu'un qui voudrait visiter l'expo uniquement sous cet angle-là pourrait le faire, mais si on la visite de manière un peu scolaire et en regardant absolument et en écoutant tout, on a vraiment une très très grande part réservée à l'artiste qui parle de son art, qui parle de toutes les merveilles et toutes les tortures que ça lui cause, et ça a été vraiment ça tout au long de sa carrière, même quand elle était en pleine possession de ses moyens. Et puis on voit très bien la manière dont la vie de la femme et la vie de l'artiste s'imbriquent. Je trouve qu'on en apprend beaucoup, même quand on croit connaître certaines choses sur Callas, et je pense que pour le grand public, ça sera une véritable découverte, enfin il me semble.
On en apprend d'autant plus que effectivement il y a beaucoup de... Tom Wolfe est allé à la rencontre de beaucoup de celles et ceux qui ont connu véritablement et de près Maria Callas, celles et ceux qui étaient encore là et qui a récupéré donc certains documents qu'on avait jusqu'ici jamais vus. C'est vraiment le parcours d'une vie, le parcours d'une femme, alors exceptionnelle à maints égards, Marie Audroux, mais qui nous est retracée d'une façon assez intime et en même temps avec cette aura qui est la sienne.
Ce qui est précisément très, très intéressant dans cette exposition, c'est que justement, c'est le côté non exceptionnel de Callas qui est montré, c'est-à-dire cette femme dans sa simplicité, quelqu'un qui quand même a une forme de bienveillance, je trouve, pour la vie, pour les autres. Ça m'a beaucoup surprise parce qu'on la présente un petit peu comme une harpie qui faisait la pluie et le beau temps partout où elle passait sur les scènes internationales. Et en fait, alors certainement il y a eu toutes les histoires qu'on connaît à des degrés divers, puisque les journaux se sont fait un régal, qu'elle a, ça a été quand même leur pain béni pendant de nombreuses années. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est justement cette femme, finalement, qui avec parfois un regard d'enfant sur les choses, cette forme de naïveté, curieusement, et aussi la manière qu'elle avait d'être complètement, d'être donnée entièrement dans tout ce qui se passait dans sa vie, que ce soit sur le plan évidemment amoureux, mais sur le plan artistique évidemment, on le sait aussi, mais aussi pour des choses, des amis, les rapports qu'elle avait avec ses amis, etc., mais même avec son majordome,
qui
vit toujours, hein, ouais. qui est comme son fils, d'une certaine façon, et cette femme de chambre qui est morte cet été, qui s'appelle Bruna, et qui ont partagé 25 ans de sa vie, et qui ont...
Qui était sa famille.
Voilà, c'est ce qu'elle disait, sa famille. Mmh. Donc, à la fois, ça fait... Franchement, on a le cœur serré quand même à pas mal de moments dans cette exposition, parce qu'on voit la solitude de cette femme aussi. Mmh. Et cette espèce de sentiment permanent qu'elle a de ne pas être à la hauteur de son art et à la hauteur de ce qu'elle porte. Mmh. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose... c'est pas seulement dans les paroles, c'est aussi dans les attitudes, et aussi la façon dont elle a porté certains rôles et dont elle a cessé de les porter quand elle jugeait qu'elle n'était plus apte à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui était une grande leçon artistique aussi, je trouve. Et encore une fois, il y a aussi ce qu'on connaît de moins de Callas, les débuts. Hein, il y a aussi des prises test qui ont été retrouvées. Donc on entend la voix dans cette plénitude invraisemblable qu'elle avait au début de sa carrière, quand elle était encore toute rondelette, enfin très rondelette d'ailleurs. Et cette voix très très sombre, dont elle disait elle-même que c'était de la mélasse. C'est le mot qu'elle emploie. Et ensuite, comment tout ça s'est affiné à tout point de vue d'ailleurs, hein, à la fois sur le plan, évidemment, on sait, sur le plan physique, physiologique, mais aussi sur le plan vocal, et parfois évidemment avec les conséquences qu'on connaît. Voilà. Mais en tout cas, ce jeune homme, Tom Wolfe, qui s'est amouraché de Callas, le dernier admirateur de Callas, a fait un travail quand même de recherche remarquable, il faut bien le dire, et a réussi à trouver des choses qu'on ne connaissait pas sur Callas, sur qui pourtant, quand on tape son nom dans Google, on a tellement de référencements qu'on laisse tomber au bout d'un moment, parce que voilà, il a suscité énormément d'exégèses et de commentaires.
Peut-être fallait-il un œil, une oreille neuve, une attention neuve, hein, il le dit lui-même, il y a 4 ans, il ne savait pas qui était Callas, je pense qu'il exagère un tout.
Je pense qu'il exagère parce qu'il a été à du Châtelet, peut-être que quand même on en parlait de temps en temps.
Mais bon,
il faut espérer.
Voilà.
Ou sinon, j'ai peur.
Un nom parmi d'autres, mais enfin bon, ça c'est l'histoire qu'il nous a racontée. Il n'empêche que c'est depuis 4 ans qu'il est dans cette quête, et une quête qui a porté beaucoup de fruits, puisque il y aura un film qui sortira donc en salle aussi au mois de décembre, documentaire qu'il a réalisé. Il y a ses éditions de correspondance, il y a un très beau livre aussi qui paraît. Emmanuel Dupuis, cette fois, pour parler de cette expo, Maria by Callas à la scène musicale.
Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, Mario disait qu'on avait plusieurs fois le cœur serré au cours de cette exposition, mais c'est vrai, et on sort même assez bouleversé par ce portrait sensible qui se dessine, cet autoportrait, puisque c'est Callas elle-même qui parle.
Maria by Callas, le titre est juste.
Le plus souvent à travers ses interviews, et où on découvre une femme avec ses blessures, ses fragilités, ses doutes et son humilité. C'est quelqu'un, effectivement, qui n'était pas du tout diva, comme on peut l'entendre parfois. Après, effectivement, il y a, comme disait Emmanuel, ces films qui sont souvent des films d'amateurs, donc muets, parce qu'ils étaient réalisés souvent en Super 8, où on voit Callas en scène, et qui sont extrêmement précieux, parce que malheureusement, aucune représentation d'opéra avec Maria Callas n'a été filmée.
Il y a un montage son audio à un moment donné des images muettes et le son pirate la même représentation.
C'est
audacieux, mais en même temps, ça donne quelque chose.
C'est plus ou moins heureux, mais de toute façon, ces documents, même muets, sont extrêmement précieux parce qu'ils nous renseignent sur l'art de la comédienne. Et sur son évolution, parce qu'on voit comment cela s'affine au fil du temps, comment dans la normale Opéra de Paris, par exemple, la gestique est devenue d'un raffinement extrême et tout passe par le regard et cela vient aussi du travail qu'elle a fait avec Visconti. Il y a un moment aussi.
Oui, Visconti est très important.
Une interview de Visconti à la fin de sa vie qui témoigne, qui raconte son amour pour Callas et qui raconte comment Callas avait besoin de lui, avait besoin
qu'il soit dans la fosse,
voilà, de sentir sa présence à côté d'elle parce que sinon elle était terrorisée de monter en scène. Donc tout ça effectivement est très.
Il a fait quoi, 4 ou 5 mises en scène? 5 mises en scène, Visconti, voilà. Pour Callas. On aurait tellement aimé les voir.
Très peu de temps.
Hein. Oui, sur un temps assez court.
Et malheureusement, effectivement, aucune n'a été filmée. Ceci étant, le petit reproche que je pourrais faire, c'est que cette exposition, quand même, aborde très peu la révolution stylistique que Callas a opérée. Parce que Callas a...
C'est pas de la musicologie. Hein.
Non, c'est pas la musicologie, mais sans faire la musicologie, je pense qu'on aurait pu faire une petite place à cette exposition-là parce que c'est essentiel. Callas a ressuscité tout un pan du répertoire belcantiste et elle a ressuscité une pratique musicale, la science belcantiste dont les secrets s'étaient perdus. Et faisant cela, pour moi, je pense que Callas a préfiguré la révolution baroque. Et cet aspect-là, malheureusement, n'est pas abordé par l'exposition. Mais bon, c'est un autre angle qui est choisi, qui est totalement assumé, très bien assumé. Comme je l'ai dit, on ressort assez bouleversé et captivé, et on y passe du temps parce qu'on se laisse emporter par l'exposition, par son parcours.
Emporté, immergé, on n'a pas parlé de cette salle 360 degrés. L'expérience vécue, Marie Audreau.
Oui, c'est une salle cocon dans laquelle on s'assoit.
Un boudoir.
un boudoir. Oui. Et puis on est entouré par des panneaux à la fois de diffusion du son et aussi de projection. Donc on est dans une salle. Mais c'est même plus qu'une salle parce qu'on est carrément, nous, on est presque
en immersion.
On est en même temps sur scène, on est en même temps proche de l'interprète. Et c'est vrai que ça crée une proximité avec la voix qui est assez jouissive, il faut bien le dire. Moi, si je peux faire un petit reproche aussi, je suis d'accord avec Manuel que l'après Callas, peut-être aurait-il fallu un dernier volet sur l'héritage Callas. Mais bon, peut-être qu'on s'en sortait du sujet. Non, je trouve que ce qui manque aussi un tout petit peu pour moi, c'est le côté un peu scientifique. Alors, c'est peut-être le côté scientifique, c'est-à-dire catalogue d'exposition. Alors, je sais qu'il y a des livres qui vont sortir, mais ce sont des livres
des beaux livres.
Voilà, des beaux livres de photos, etc. Et là, peut-être, ça manque un tout petit peu de repartir avec quelque chose.
Pour prolonger.
Il y a parfois des cartels qui sont peut-être, il manque un petit peu de précision sur les dates.
Il y a quelques erreurs.
Voilà, il y a quelques erreurs et il y a quelques.
Ils en ont corrigé d'ailleurs.
C'est imprécisions sur de dates, alors qu'on sait très précisément à quel jour Callas a chanté telle chose à tel endroit.
Oui.
Voilà.
Ce qu'il aurait fait, je suis de votre avis, pour aller dans ce sens-là, c'est en fait des écoutes comparées.
Oui, mais voilà.
Évidemment, on n'entend que Callas, donc on peut croire, et c'est tellement saisissant, qu'on peut croire, c'est l'alpha et l'oméga, qu'on a toujours fait ça, qu'on fera toujours ça.
Pas du tout.
Voilà, et donc, c'était une forme de comparatif, ce qui peut manquer. Ce qui est très, très beau, vous l'avez dit, Emmanuel, aussi, la manière dont on voit qu'elle affine son jeu grâce à ses images. Ce qu'on voit, c'est l'intelligence avec laquelle, dans les interviews comme sur scène, elle use de ses mains. Vous parliez du regard, mais dès le début, même quand elle joue, que son physique est moins éblouissant, même si déjà il y a ce regard et ce sourire incroyable, mais elle a une manière de pointer avec la main ou le public ou ses partenaires. C'est absolument extraordinaire. Et évidemment, dans le grand gala de Paris, la manière dont elle ramène son étole et tout ça, qui pourrait chez quelqu'un d'autre être affecté. Elle, on sent vraiment qu'elle a le cœur sur la main, le chant sur la main. Enfin, c'est vraiment une réalité. Et on se rend compte aussi à quel point elle est intelligente. Elle dit qu'elle est instinctive, que elle s'en remet au Seigneur. Que voilà, il y a certains aspects sur lesquels on pourrait facilement un peu ricaner en se disant c'est une artiste qui n'intellectualise pas ce qu'elle fait. Quand elle veut le faire, elle le fait parfaitement bien. Et c'est un esprit absolument remarquable. Non, on se rend compte que en effet, c'est une femme comme les autres et une femme absolument pas comme les autres. Et puis vocalement, l'extrait de Butterfly qui accompagne ces images captées à Chicago pendant une répétition toute tremblicotante, la manière dont elle chante, il n'y a pas deux notes qui sont les mêmes, elle devient une toute jeune fille au milieu de l'air, puis elle redevient la femme passionnée à la fin. Enfin, mais c'est stupéfiant.
Et même la gestuelle, comment elle se retourne avec le kimono, on a l'impression l'impression qu'elle elle est née là-dedans, dans le costume. C'est vraiment incroyable. Et du coup, on croit connaître beaucoup de choses. On connaît déjà beaucoup de choses sur Callas, mais c'est vrai que cet anniversaire, c'est 40e anniversaire de sa mort, mais il ne ressemble pas au 30e, parce que là, il y a vraiment un élément. Cette exposition qui apporte vraiment quelque chose de nouveau.
Et qu'on a avec le coffret aussi, avec tous ces lives éblouissants.
Pour finir, quand même, un joli coup pour la scène musicale, pour une première exposition, parce que c'est quand même c'est compliqué pour un nouveau lieu.
Oui, enfin, c'est surtout compliqué
de s'inscrire sur la carte.
C'est compliqué pour y aller.
De l'île de France.
C'est surtout compliqué de réussir une exposition sur les musiciens,
On en parle régulièrement.
Voilà, je suis toujours assez réticent. Et je dois dire que j'y allais un petit peu entre dans les pieds, parce que la musique, ça ne se regarde pas, ça s'écoute. Or là, effectivement, l'intelligence du parcours et fait que d'abord, il y a beaucoup de choses à écouter, mais fait qu'on se laisse captivé par cette exposition. Donc oui, c'est un joli coup. Et j'espère que cette exposition aura du succès. Oui.
Souhaitons-le, avec tout ce que vous venez de dire, on peut avoir qu'une envie, c'est d'aller voir Maria by Callas, l'exposition La Scène Musicale, qui se poursuit jusqu'au 14 décembre.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute est la reprise du spectacle Traviata, vous méritez un avenir meilleur, d'après la Traviata de Verdi, un spectacle conçu par Benjamin Lazare, Florent Hubert et Judith Chemla, mise en scène par Benjamin Lazare, présenté en ce moment au Bouffe du Nord jusqu'au 30 septembre. Il y aura ensuite une tournée en 2018, je donnerai date tout à l'heure, on en avait déjà parlé ici il y a un an au moment de sa création, mais à l'absence d'une de ses ferventes supportrices, Marie Audreau. Par contre, il y avait les oppositions qui sont toujours présentes, les deux Emmanuels. Emmanuel Dupuis avait été particulièrement cinglant à voir. En tout cas, c'est un spectacle qui marie théâtre et opéra, chant et jeu, français et italien, autour du personnage de Marguerite Gauthier, de la dame aux camélias devenue Violetta chez Verdi. Sont de plus en plus courts. Emmanuel Giolini, vous n'étiez pas présent lors de la dispute consacrée à cette émission, à ce spectacle, mais nous en avions parlé hors antenne et je sais que vous n'étiez pas du côté, on va dire,
des partisans.
Alors peut-être qu'on va repartir de là, tiens, Emmanuel Dupuis. Alors, je dois louer votre conscience professionnelle, qui n'a d'égal que votre vivacité intellectuelle. Vous êtes retourné voir ce spectacle qui vous avait tellement irrité l'année passée.
Et oui, parce que le spectacle a beaucoup tourné déjà, donc je me dis que les choses peuvent évoluer, que mon avis aussi peut évoluer. Et je trouve effectivement que quelque chose a changé quand même. C'est-à-dire que il y a une beaucoup plus grande liberté musicale, notamment dans l'accompagnement qui est exécuté par les musiciens qui sont sur scène et qui participent au spectacle. Il y a une plus grande distanciation par rapport à la partition de Verdi, ce qui est plutôt une très bonne chose. Mais à mon sens, ça ne va pas encore assez loin parce que tout simplement il y a trop de chants et c'est là que le bât blesse parce que c'est un chant qui relève encore du bel canto et pour aborder ce style-là, il faut des chanteurs vraiment aguerris. Or nous n'avons sur scène, aucun chanteur aguerri. Donc, quand Judith Chemla s'attaque au Sempre Libera de Violetta, ben pour moi, ça reste un supplice, ce que j'avais dit il y a quelques mois, mais ça reste un supplice. Et puis, quand j'entends un ténor qui braille, c'est la même chose. Et quand j'entends un baryton assez terne, aussi. Donc voilà, j'ai toujours ce sentiment-là de voir un petit peu une Traviata au rabais, même si dans le spectacle lui-même, d'un point de vue théâtral, il y a des choses extrêmement touchantes, évidemment.
Bon, le projet global de ce spectacle, vous n'y êtes pas fondamentalement hostile. Ce qui vous dérange, c'est qu'il reste de la musique, pour résumer.
Ce qui me dérange, c'est qu'il reste surtout du chant. Après oui, le projet global, bien sûr que non, je ne suis pas du tout hostile. Une des plus grandes choses que j'ai jamais vues dans ma vie, c'est la tragédie de Carmen de Peter Brook. Peter Brook, d'abord, avait fait retravailler la partition par un très grand compositeur, c'était Marius Constant, et il avait eu la sagesse de faire appel à de jeunes chanteurs d'opéra, et non pas des comédiens qui...
Qui ont une pratique du chant.
Une pratique du chant, voilà, c'est niveau amateur, quoi. Hein, c'est pour parler clairement.
Marie Audroux, alors.
Alors, moi, je suis également retournée voir cette Traviata qui m'avait beaucoup touchée, qui m'avait vraiment gardé en haleine pendant tout le spectacle, parce que justement, je me demandais ce qui allait se passer, comment ils allaient se dépatouiller avec les airs célèbres, avec toutes les choses que tout le monde connaît. Et peut-être que je m'attendais à quelque chose de tellement terrible que finalement, j'étais plutôt...
Alors, j'ai votre papier dans Le Monde de l'époque.
J'étais dithyrambique. C'est vrai que je suis tombée
en amour devant
la grâce de Judith Chemla, devant cette force d'incarnation qu'elle a. Et aussi, peut-être, le hiatus entre ce physique presque évanescent et cette espèce de voix quand même assez puissante qu'elle peut avoir par moment, même si effectivement elle y va carrément et on voit les cordes vocales qui se tendent.
L'an dernier, elle s'était d'ailleurs suffisamment abîmée les cordes vocales.
Et ça, c'est quelque chose qui m'en avait touché, parce que peut-être je suis peut-être moins amateur d'opéra ou moins puriste que notre ami Emmanuel. Non, mais c'est vrai que j'adore les voix, mais j'essaye de ne pas avoir d'idéal dans quelque répertoire que ce soit. C'est-à-dire que j'ai envie peut-être qu'on me surprenne de manière peut-être irritante, mais j'aime bien les paris. Et je trouve que ce pari-là, il est très très audacieux, il est osé. J'ai trouvé qu'il était bien réussi, la partie théâtre s'insère dans la musique, et je me suis dit, comment fait-on pour chanter quand même les notes, parce qu'elle chante les notes, faut quand même dire les choses comme elles sont, elle n'est pas très précise dans les... Oui, on est d'accord, dans le Sempre Libera ou dans Folie et Folie, oui, il manque c'est un petit peu parfois, les notes sont peut-être pas parfaitement en place, mais quand même, elle le chante, dans la tonalité, elle y va, et en même temps, tout d'un coup, paf, elle peut s'arrêter et vous parler comme si elle allait demander une baguette de pain chez le boulanger. Donc je trouve que ce travail-là sur la comédie, sur le théâtre et sur la musique, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. On n'a pas ça à l'opéra, même quand les gens sont très bons acteurs, ils ne nous donnent pas ça, et inversement. Donc précisément, en tout cas Judith Chemla, surtout, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment quelque chose qui était dans cette marge entre le théâtre et l'opéra, une espèce de gouffre. On ne sait pas trop où on est, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors peut-être on peut dire effectivement qu'il y a peut-être trop de musique. Pourquoi pas ? Peut-être que ça... Je suis d'accord cette fois-ci. À la deuxième écoute, je l'ai ressenti et que peut-être, il y a un moment, on va trop dans la Traviata. On laisse trop la Traviata s'approcher de nous. Et peut-être qu'il faudrait la tenir plus à distance, effectivement. C'est dans ce sens-là que que j'ai envie de parler de distanciation. Pas forcément dans le fait d'être dans un regard de froideur ou de méfiance ou de sarcasme ou de... Enfin, voilà. J'ai envie de dire, il ne faut pas laisser trop la Traviata exister. Il ne faut pas laisser Verdi trop s'approcher. Il faut donner un coup de latte quand elle arrive trop près.
Et mais là, mais c'est exactement ça.
Et c'est ça, effectivement. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire.
C'est ce qui fait qu'on a ce sentiment de voir une sous-Traviata, alors qu'on aimerait voir un spectacle sur la Traviata, et que la Traviata apparaisse en filigrane, mais ne soit pas le sujet principal du spectacle.
Il y a peut-être trop d'amour et trop de respect pour la Traviata, et trop de gourmandise de vouloir n'éviter aucun des grands airs, et comme il y en a beaucoup.
Dans ce contexte, les grands airs, on s'en fiche, quoi, d'une certaine manière.
Non, on s'en fiche pas. Moi, je suis contente qu'il y ait toute la scène avec Germont.
La scène avec Germont, effectivement.
Elle est magnifique, cette scène, d'ailleurs, parce que Damien, comment il s'appelle ?
Bigourdan.
Non, je parle du baryton.
Ah.
Attendez. Jérôme Billy, je trouve qu'il a progressé. Oui. Il a beaucoup progressé dans le rôle de Germain.
C'est une bonne nouvelle.
Emmanuel Giuliani,
qu'on
entend à peine. Allez-y.
Alors, je suis beaucoup moins sérieuse que Marie-Audée Emmanuel parce que je ne suis pas retournée voir le spectacle. Donc, vous m'autorisez quand même à en parler.
Mais avec le réfrigérateur et le congélateur, vous avez gagné des points. Donc
d'accord,
c'est bon.
Donc je les perds là avec...
Non, ça va, ça s'équilibre.
Et j'y allais au contraire avec beaucoup de confiance. D'abord parce que...
Il ne faut jamais.
Parce que ce à quoi touche Benjamin Lazare, en général, voilà, j'aime énormément. Les Bouffes du Nord me rappelaient, parce que je crois que c'était bien là, en effet, la tragédie de Carmen et les impressions de Péléas, qui étaient aussi une splendeur. J'avais un peu moins aimé La Flûte enchantée du même Peter Brook plus récente.
Oui, Katia Gabanova, voilà. En Bengal, qui était jolie aussi.
Et voilà, donc je me disais, ça va être magique, merveilleux, une variation sûre, ne recherchons pas à retrouver la Traviata, ça ne sera pas cela. Et j'ai été très très déçue également par le dispositif scénique, et ça m'a étonnée, j'ai trouvé que ça faisait trouver au décrochez-moi ça et au vide-grenier, et que l'esthétique si jolie, si raffinée habituellement de Benjamin Lazare, ces tulles, oui, me semblaient chargées d'une poussière ancestrale, les fleurs en plastoc qui font clic-clic en plus... Je me disais, mais c'est un dispositif de vieux théâtre de province qui n'a pas de moyens. J'étais stupéfaite.
Adressez vos courriels directement à Emmanuel Giuliani dans un vieux théâtre de province.
De la ringardise. Oui, bien sûr, vieux théâtre, mais il n'y en a plus. Et justement, les vieux, maintenant ils sont tous beaux, tout neufs. Que la ringardise du dispositif scénique m'avait vraiment un peu... Même les tenues, enfin, voilà, je trouvais que ça faisait vieux théâtre, comme dirait un de mes chers collègues qui s'occupe de théâtre, justement, chez nous. Et puis après, bon, ce que vous avez dit, Emmanuel, il fallait sans doute s'attaquer à Césaire, puisque vraiment la Traviata, c'est...
Fallait aimer Césaire.
Voilà, oui. Mais en les déstructurant complètement, en peut-être les parlant chantant à moitié, en peut-être les chantant en partie en français, en partie en italien.
Ou en les évoquant, à travers les instruments.
Comme on ferait avec un collage, comme un artiste surréaliste ferait avec un collage.
Je crois que là n'est pas du tout le propos de Benjamin Lazare et de ses acolytes. Oui, c'était vraiment d'arriver à nous donner une Traviata.
Je pense que ça, c'est un projet totalement irréalisable.
Voilà. Dans ces conditions, il fallait faire appel à des chanteurs d'opéra.
Qui n'auraient pas eu cette qualité de jeu théâtre.
Mais qui auraient eu la technique. Je suis désolé, mais entendre pendant 2 heures une soprano qui chante comme une crécelle, parce que...
Moi,
elle me vrille les tympans, quoi.
C'est Alfredo.
Et un ténor qui braille, moi, pour moi, c'est quand même...
Il y a un problème.
Elle, c'est plutôt la fée clochette qu'une crécelle. C'est une petite voix.
Non, vous êtes affreux, là. Vous dites des horreurs.
Vocalement, parce que c'est vrai, théâtralement. Elle est magnifique,
théâtralement.
Mais c'est d'autant plus émouvant que c'est fragile, aussi, la voix, que c'est pas la perfection, évidemment.
Il y a des limites, quand même.
Non, je... Enfin, vraiment, vous y allez fort.
Il y a des fragilités chez Maria Callas.
Franchement, vous allez trop loin, Emmanuel.
Après, effectivement, c'est une comédienne fabuleuse et elle se jette dans le destin de Violetta avec une vérité absolument sidérante et. Mais c'est vrai que le fait qu'elle lutte avec le chant,
ça amène une émotion supplémentaire,
aussi une forme d'émotion. Mais c'est un peu trop souvent quand même.
Nous faire hurler de rire.
Non, oui, mais je nous fais d'abord hurler puis de rire. Bon, Marie Audreau, comme vous, moi, je suis très sensible à ce spectacle. Peut-être. Aurais-je aimé davantage de théâtre, mais pas moins de musique, parce que je suis quand même ému. D'abord, on l'a pas redit, mais c'est avec le travail d'orchestration et de réorchestration, de réduction, et puis le fait que les comédiens participent véritablement, les musiciens soient vraiment comédiens, partie prenante de l'action et pas juste.
Ils ont beaucoup retravaillé.
C'est une chose vraiment rare, très beau travail aussi.
Instrumentalement, c'était très bien d'ailleurs.
Et même c'est mieux parce que justement, comme je disais tout à l'heure, ils ont pris beaucoup de liberté
ils ont gagné.
Et,
oui, oui.
Et, Et voilà, et eux justement jouent le jeu de la distanciation par rapport à la partition.
Ils chantent aussi.
Ils chantent aussi. En fait, c'est un spectacle qui abolit les frontières. Ça c'est vraiment une très bonne chose.
Je mets un point là. Comme ça, c'est
là
une très bonne chose.
Emmanuel va se renier dans peu de temps.
Non, on s'arrête là pour dire que cette Traviata, vous méritez un avenir meilleur. C'est jusqu'au 30 septembre au Bouffes du Nord à Paris, puis en tournée à partir du mois de février du 6 au 10 à la MC de Grenoble, 13 au 17 février à la Maison de la Culture d'Amiens, du 20 au 24 février à l'Espal, du 27 février au 3 mars aux deux scènes de Besançon, 8 et 10 mars à l'Apostrophe Cergy-Pontoise, du 13 au 17 mars au Théâtre de Nîmes, 21 à 25 mars Château-Vallon, 28 mars au 1er avril à l'espace Malraux à Chambéry, 9 au 13 avril, Volcan, scène nationale du Havre, et du 17 au 29 avril, Théâtre du Nord, le CDN de Lille, en partenariat avec l'Opéra de Lille, qui n'a pas peur, lui. 3 et 5 mai, Théâtre municipal de Bastia, on y verra Emmanuel Dupuis chacune quasiment de ces dates.
Oui, bien sûr.
Pendant ses vacances en Corse, ben oui.
Nous concluons comme chaque soir avec le jeu de la dispute. Rappel d'abord du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse. D'abord la question, Grégoire Di Fiore.
Quel candidat à l'élection présidentielle Raymond Depardon a-t-il suivi pour son premier long métrage?
Vous n'étiez pas né, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui a interdit le film, qui est sorti bien plus tard. A gagné ce soir des passes pour toute la durée du festival Biarritz Amérique latine du 25 septembre au 1er octobre. La question:
quel écrivain colombien a grandi dans la ville d'Aracataca?
Vous le savez autour de cette table, ne dites rien. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur internet, franceculture.fr, à la page de la dispute. Demain, à 19h, une dispute art plastique en compagnie de Corinne Rondeau, Florian Guettet et Harry Bellet. À notre affiche, une émission spéciale tout entière consacrée à la 14e Biennale d'art contemporain de Lyon, qui a pour intitulé cette fois-ci « Monde flottant ».